au micro Idrissa Seydoudia, bonjour. Dernière minute, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné l'offensive finale contre les autorités du Tigré à Mekele. Il leur avait lancé un ultimatum de 72 heures pour déposer les armes. Au Burkina Faso, au moins 5 supplétifs civils des forces de sécurité dans la lutte anti-djihadiste ont été tués dans une attaque contre le site d'or d'Ara, mardi dans le nord. Par ailleurs, les Burkinabés attendent toujours les résultats des élections de dimanche. Le président Roch Marc Christian Kabore, qui brigue au second mandat, devançait mercredi ses adversaires selon les résultats partiels annoncés au compte-gouttes par la CENI. L'opposition a menacé de ne pas accepter ce qu'elle a appelé des résultats entachés d'irrégularités. En Guinée, plusieurs personnes ont été blessées mercredi lors d'une manifestation de partisans du principal parti d'opposition pour contester la réélection du président Alpha Condé et réclamer la libération de ses responsables emprisonnés. John Lyndon nous en dira plus. En Côte d'Ivoire, la délivrance du passeport de l'ex-président Laurent Gbagbo en liberté conditionnelle à Bruxelles après son acquittement en première instance par la CPI est en cours selon le gouvernement. Nous y reviendrons avec Abdourahmane Dia. En République démocratique du Congo, la présidence a annoncé mercredi soir la fin des consultations politiques lancées le 2 novembre par le président Félix Tshisekedi pour sortir de la crise avec ses partenaires de la coalition au pouvoir, les fidèles de son prédécesseur Joseph Kabila. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandums déposés par les invités, a déclaré le porte-parole du président Kasongo Mouema. À la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions, a-t-il ajouté, sans donner de date précise. Sadek Al-Mahdi est décédé jeudi du Covid-19 à l'âge de 84 ans, a annoncé son parti Ouma. Dernier premier ministre soudanais élu démocratiquement, il avait été renversé en 1989 par un coup d'état militaire mené par Omar el-Béchir. Atteint du coronavirus, Sadek Al-Mahdi était hospitalisé aux Émirats Arabes Unis. Omar el-Béchir et 27 autres accusés sont actuellement jugés pour ce coup d'État de 1989. L'ex-autocrate risque la peine de mort. Depuis le début de la pandémie, 16 649 cas de Covid ont été officiellement recensés au Soudan, entraînant la mort de 1210 personnes. Les États-Unis ont déploré mercredi, à la veille de la très populaire fête de Thanksgiving ce jeudi, plus de 2400 morts du coronavirus en 24 heures. Selon les données de l'Université Johns Hopkins, un triste bilan qui n'avait pas été atteint depuis plus de 6 mois. De nombreux États américains ont, les uns après les autres, réimposé des restrictions malgré l'arrivée de la période des fêtes. Thanksgiving est une grande fête familiale où amis et familles se retrouvent autour de la traditionnelle dinde farcie. Les centres américains de prévention et de lutte contre les maladies avaient appelé pour la première fois les Américains à ne pas voyager pour cette fête, mais les images des millions d'Américains voyageant dans des aéroports bondés à Chicago, Washington et New York, ont alimenté les inquiétudes. L'Allemagne réclame l'interdiction des séjours de ski en Europe et va maintenir ses restrictions antivirus jusqu'à début janvier, tandis que d'autres pays, France en tête, les allègent progressivement à l'approche de Noël. La présidente de la Commission européenne a mis en garde mercredi, les États européens contre un assouplissement trop rapide des règles anti-Covid au risque de déclencher une troisième vague de l'épidémie après Noël. Dans quelques instants, avec Yacouba Ouédraogo, la mort de l'Argentin Diego Maradona, légende du football. informations. En Guinée, plusieurs personnes ont été blessées mercredi lors d'une manifestation de partisans du principal parti d'opposition pour contester la réélection du président Alpha Condé et réclamer la libération de ses responsables emprisonnés. Les précisions de John Linden.
À la Belle, au centre nord, les forces de l'ordre ont dispersé une manifestation de centaines de partisans de l'Union des forces démocratiques de Guinée, parti de Sélou d'Alain Diallo, principal adversaire d'Alpha Condé à la présidentielle du 18 octobre. Les manifestants étaient munis de drapeaux et de portraits de jeunes tués, selon eux, par ces mêmes forces de l'ordre, selon des témoins et des organisateurs. Une vingtaine de personnes ont été blessées lors de cette manifestation, selon des témoins. Une source hospitalière a, elle, fait état de 7 blessés. Un nombre indéterminé de manifestants ont été également arrêtés mercredi et conduits à la gendarmerie ou dans un camp militaire de la ville, a indiqué une source de sécurité. Le gouvernement a annoncé dimanche l'interdiction jusqu'à nouvel ordre des manifestations en invoquant la pandémie de COVID-19. À Conakry, l'appel de l'UFDG à manifester a été maintenu, mais semble cependant avoir eu un écho limité. Aucun rassemblement n'y a été rapporté. La candidature de Condé a donné lieu à des mois de manifestations durement réprimées et de violences qui ont fait des dizaines de morts civiles depuis un an et dans les jours suivant l'élection.
L'affaire du passeport de Laurent Gbagbo, les autorités ivoiriennes annoncent que la délivrance du document de voyage de l'ex-président ivoirien est en cours. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le porte-parole du gouvernement, Sidi Tiémoko Touré, il y a eu une évolution et qu'il ne faut pas faire de l'affaire du passeport de Laurent Gbagbo un dossier spécifique. Le feuilleton du passeport de l'ex-président dure depuis plusieurs mois. Son avocate Habiba Touré avait accusé en juillet les autorités de lui refuser le passeport, notamment afin qu'il ne puisse pas rentrer dans son pays pour l'élection présidentielle du 31 octobre. Le retour de M. Gbagbo est un des points en discussion entre le pouvoir et l'opposition qui ne reconnaît pas la victoire du président Alassane Ouattara, estimant que son troisième mandat est inconstitutionnel. Le président Alassane Ouattara a déjà assuré à plusieurs reprises qu'il était favorable à un retour de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ce dernier n'avait pas appelé à la désobéissance civile comme le reste de l'opposition. L'ancien président Henri Colombeye a suspendu vendredi sa participation au dialogue avec le président Ouattara, dialogue amorcé le 11 novembre pour faire baisser la tension dans le pays. Au moins 85 personnes ont été tuées dans des violences liées au scrutin depuis le mois d'août.
L'annonce du décès mercredi de la légende du football, l'Argentin Diego Maradona, a entraîné un déluge de tristesse et d'éloges dans le monde du ballon rond. Yacouba Ouedraogo.
J'ai perdu un grand ami, le monde a perdu une légende. Un jour, j'espère qu'on pourra jouer au foot ensemble au ciel, écrit le roi Pelé, 80 ans. Lionel Messi affirme sur Instagram que Maradona nous laisse, mais il ne s'en va pas. Parce que Diego est éternel, le portugais Cristiano Ronaldo dit adieu à un génie éternel et un magicien inégalable, tandis que pour Michel Platini, ancien joueur et ex-dirigeant de l'UEFA, Diego Maradona restera dans le cœur des Napolitains, dans le cœur des Argentins, comme une étoile et pour l'éternité. Gary Lineker, buteur anglais lors du célèbre Angleterre-Argentine du Mondial 1986, salue de loin le meilleur joueur de sa génération et sans doute le plus grand de tous les temps. Tu nous as amenés sur le toit du monde, tu nous as rendus immensément heureux, tu as été le plus grand de tous, merci d'avoir existé Diego, tu vas nous manquer pendant toute notre vie, déclare le président de l'Argentine, Alberto Fernandez. Merci éternel, éternel Diego, a réagi Boca Juniors, le club argentin, où le numéro 10 a séduit l'Europe en 1981-82, avant son départ pour le FC Barcelone de 82 à 84 et Naples 84 jusqu'en 91. Pour toujours, Ciao Diego s'est incliné le club italien, le pilier de Oro Entendé, gamin en or, l'auteur de la main de Dieu, Diego Armando Maradona est décédé des suites d'un arrêt cardiaque en Argentine, selon son porte-parole Sébastien Sanchi. L'Argentine a décrété hier 3 jours de deuil national pour rendre hommage à l'un des grands techniciens du football.
La Minute Éco, John Linden.
L'État du Sénégal a levé mardi un peu plus de 103 milliards de francs CFA auprès des investisseurs opérant sur le marché financier de l'UEMOA au terme de son émission par adjudication des bons assimilables du Trésor de maturité 28 jours dénommé bons social COVID-19. À travers cette opération, indique Financial Afrique, le Sénégal entend couvrir les décalages des trésoreries créés par la lutte contre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences. Au Nigeria, l'inflation globale a grimpé pour le 14e mois consécutif. Réuni les 23 et 24 novembre 2020, le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Nigeria a indiqué avoir noté avec préoccupation que l'inflation est en hausse pour le 14e mois consécutif en glissement annuel passant de 13,71% en septembre 2020, son plus haut niveau depuis mars 2018, à 14,23% en octobre 2020, soit son niveau le plus élevé depuis février 2018. Nouakchott vient d'affecter près de 10 millions de dollars à l'extension de la société Chantier Naval de Mauritanie. Il s'agit du seul chantier naval dans le pays basé à Ouagadougou, la capitale économique. À travers cette extension, le ministère des Pêches et de l'Économie maritime compte construire de nouvelles usines de réparation navale. L'objectif affiché est de booster la pêche artisanale dans un contexte marqué par une forte baisse des recettes du secteur de la pêche due à la pandémie du coronavirus.
Les sports à présent avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Un seul sujet dans cette page sportive. Nous rendons hommage à Diego Maradona, mort hier à l'âge de 60 ans. Maradona était une star planétaire du football bien connue au Cameroun. C'est avec beaucoup de tristesse que les amateurs du ballon rond ont appris la nouvelle de sa disparition. Au pays des lions indomptables, l'image de Maradona reste intimement liée au face-à-face avec le Cameroun et l'équipe nationale d'Argentine. Lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde de 1990 en Italie, de Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Julentap.
Lorsqu'ils apprennent le décès de Diego Maradona, les jeunes footballeurs de l'académie à venir à Yaoundé sont au bord de la consternation.
C'est une grande tristesse. Dans le monde du football vient de perdre l'un de ses anciens succès.
Vraiment, c'est malheureux. C'est un très grand joueur. C'est très, très touchant. Et ça nous laisse en isolation, dans les larmes, quoi.
Les Camerounais ont encore en mémoire le souvenir de la confrontation entre le Cameroun et l'Argentine. Le 8 juin 1990, à match d'ouverture de la Coupe du Monde en Italie. Ce jour-là, le meneur de jeu de l'équipe nationale d'Argentine a eu maille à partir avec une robuste équipe du Cameroun.
Et je me rappelle du match Cameroun-Argentine, là où il a pris le ballon, il s'est mis à jongler au stade.
Avant le match, il a fait un jonglage et après ça n'a pas découragé les Camerounais. Les Camerounais qui ont, malgré le gamme, l'ont retenu et ont gagné le match.
Le défenseur Bertin Ebouélé faisait partie du 11 entrant du Cameroun face à l'Argentine.
Nous partions ce jour-là pour essayer de limiter les dégâts face aux champions du monde avec son meilleur joueur. Nous avons eu des consignes, c'était de ne pas laisser des espaces. Maradona, il y a des espaces. Alors il vous prend 1, 2, 3 et c'est ce que nous avons essayé de faire. Lorsqu'il passait un premier joueur, il fallait que le deuxième stop le dribble ou empêcher le ballon d'avancer. Et je crois que ça nous a beaucoup réussi.
Mais les déboires de Diego Armando Maradona avec la drogue ont quelque peu écorné sa réputation de grand footballeur. Thomas Tsungi est éducateur et entraîneur de football.
La drogue et le football, ça ne marche pas ensemble. Pour moi, en tant que sportif, en tant qu'entraîneur de football, je ne veux pas encourager les gens à se droguer. Parce que la drogue, c'est la tricherie au football. Le football, c'est le travail.
Cependant, la star argentine reste un modèle pour les jeunes footballeurs qui préfèrent s'attarder sur les aspects positifs du disparu.
Les années 90, il n'y a pas de. Maradona, c'est le king. Même si c'est au gros gars, aussi avec lui, ça me fait, ça me touche comme il est décédé.
Dans Maradona, il y a la gestuelle, il y a la technique, il y a aussi sa maturité dans le jeu, tout ça, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Et Maradona m'a beaucoup inspiré.
J'aimais bien son pied gauche et son but avait la même, ça m'a marqué.
Il l'a mis de la main.
Sur son compte Twitter, le président de la Fédération camerounaise de football a écrit que Maradona était plus qu'une légende. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Jurait-il que l'Argentine, sur ce but, notable, mène 1 à 0. But tiré de la main, du point, par Maradona.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sébulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, conséquence de la pandémie de Covid-19, le pays est à nouveau entré en récession après une contraction de 3,62% de son PIB au troisième trimestre 2020. Le pays le plus peuplé d'Afrique se remettait à peine de la récession de 2016 suite à l'effondrement des prix du pétrole en 2015. L'un des secteurs les plus frappés par la crise est celui de la microfinance, malgré les mesures prises par le gouvernement fédéral pour aider les petites et moyennes entreprises. Le point avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Odo Dieko Okenyodo est un entrepreneur nigérian. Faute de moyens financiers, il est obligé de se tourner vers les institutions de microfinance pour développer son entreprise. Ceux qui lui sont redevables depuis quelques mois pour des services déjà rendus n'arrivent pas à honorer leurs engagements.
Nous sommes obligés en ce moment de faire un bond auprès des microfinanciers. Nous voulons agrandir l'entreprise, construire un studio et recruter plus de personnel. Il nous faut emprunter de l'argent. Le gouvernement a un système de crédit en place, mais nous n'avions pas eu accès à cela malgré nos tentatives et nos efforts.
Chez certaines structures de microfinance, les choses ne tournent également pas bien, mais elles ont mis en place des alternatives pour soutenir leurs clients en cette période de crise sanitaire, comme ici chez Benjamin Chukuka, qui dirige une agence de microfinance.
Ce que nous faisons, c'est d'encourager nos clients d'économiser et tout ce qu'ils pourront économiser sera utilisé. Certains reviennent pour leur argent en espèces, d'autres, nous utilisons leur argent pour acheter des articles comme vous voyez ici. Deuxièmement, certains clients auxquels nous avions prêté de l'argent durant cette période de COVID-19 ont eu des problèmes et leurs affaires ont été fermées. Le remboursement devient ainsi un problème.
Pour les institutions de microfinance, le défi est immense. En effet, compte tenu de la nature de leur portefeuille et des activités de leurs clients, les institutions de microfinance et le secteur de l'inclusion financière en général sont affectés par la crise sanitaire, à en croire cet économiste nigérian Odilim Nwebera.
La majorité des institutions de microfinance sont en crise, ce qui veut dire qu'elles ne peuvent pas emprunter de l'argent et donc les gens ne viennent pas aussi déposer de l'argent dans les agences. Et cela a eu un impact négatif sur la microfinance.
La Banque centrale du Nigeria avait décaissé un montant de plus de 50 milliards de naira, soit 130 millions de dollars, pour des crédits ciblés destinés aux ménages et aux petites et moyennes entreprises touchées par la pandémie. Problème, seuls 9% des ménages nigériens ont obtenu des prêts auprès des banques et institutions de microfinance depuis mars, selon le Bureau national des statistiques, la NBS. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Gabon, la rentrée scolaire cause d'énormes soucis aux autorités, parents et étudiants. Deux semaines après l'annonce officielle de la reprise des cours en plein Covid-19, nombreux sont les établissements qui procèdent encore aux inscriptions ou réinscriptions des élèves. Reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Après 9 mois d'interruption des cours à cause de la pandémie du Covid-19, rouvrir les écoles n'est pas chose facile pour le gouvernement gabonais. C'est du moins ce que laisse entrevoir l'ambiance devant certains établissements secondaires, cas du lycée public Paul Emmanuel Yégué d'Olomi à Libreville.
On a déjà les
Dans l'enceinte du lycée, nombreux sont les élèves qui se bousculent encore devant le tableau d'affichage des listes nominatives.
On pense que c'est avec vous, on est dans la salle, on est dans la salle aussi. Les élèves parlent encore de temps, c'est le programme, à quel point on peut venir, le premier jour, on peut venir à quelque chose.
Le contexte pandémique a obligé les autorités à préconiser des mesures de sécurisation sanitaire. Cette année, il n'y aura pas plus de 30 élèves par salle et donc pas d'inscription supplémentaire ou parallèle. En dehors des transferts officiels autorisés par le ministère de l'Éducation nationale, la décision pénalise Marcelin Drobam, parent d'élèves fraîchement muté à Libreville.
J'ai un enfant en classe de 6e et 3e, suivi de la classe de seconde, 3 dossiers pour le transfert. J'ai rempli les formalités de transfert, j'ai déposé le dossier et je me retourne à l'éducation où on a recueilli qu'un seul enfant sur le code de l'IAM, comme de place au niveau de 6e et 3e.
Et ce n'est pas tout pour cette année scolaire. Le système de rotation des groupes par semaine réduit le volume horaire du suivi scolaire des élèves. Pour Séraphin Yenné, enseignant d'histoire-géographie, cet emploi du temps est tout juste tiré par les cheveux.
On a deux groupes, chaque groupe va prendre 2 heures par semaine au lieu de 4. On le fait, et puis bon... À partir de là, on se dit que les programmes de self-lesson sont exécutés comme il le faut.
C'est pour toutes ces raisons liées au démarrage des cours, le 9 novembre, que les partenaires sociaux demandaient le report de la rentrée scolaire. Farid Dolaire, MSA, secrétaire général du syndicat de l'éducation nationale.
On aurait dû rester dans le format ancien de l'année scolaire à 3 trimestres, parce qu'aujourd'hui, deux tranches de 4 mois, ça fait 8 mois, ça ne fait pas 9 mois.
Mais dans ces différentes communications officielles, le gouvernement, par la voix de son ministre de l'éducation nationale, affirme que dans ce contexte particulier, le réaménagement des emplois du temps était nécessaire. C'est ce qui explique une diminution des heures en mode présentiel et un développement de l'enseignement à distance sous plusieurs formes. Libreville, Ismaël Obianzi pour VO Afrique.
Chaque 25 novembre est célébrée à travers le monde la Journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. À Boaké, en Côte d'Ivoire, notre correspondante Aïcha Diarra s'est rendue au Centre de solidarité et d'action sociale, engagée dans la lutte contre ce fléau, pour rencontrer certaines des femmes victimes de telles violences.
Ils ne me donnent pas à manger, ils ne parlent pas avec moi. Voilà. À chaque fois, si quelqu'un vient demander après moi, ils chassent la personne. Même pour boire l'eau à la maison, je paye l'eau avec mes enfants.
Victime de viol à son jeune âge, Sita Ouattara constate quelque temps après qu'elle attend un enfant de son bourreau qui finira par être son époux avec qui elle aura 6 enfants. Aujourd'hui, elle est âgée de 35 ans. Son mari a épousé 2 autres femmes plus jeunes et fait de sa vie un véritable enfer.
Il est parti marier une petite fille de 14 ans. Bon, la fille ne voulait pas de lui payer le vieux. S'il veut rapporter la fille, donc ça faisait mal. La fille dit qu'il ne veut plus le voir. J'ai pris la fille pour aller à la clinique pour la soigner. Maintenant, quand la fille a trouvé place, le monsieur dit de partir. Parce que c'est moi qui ai fait sorcellerie que la fille, s'il sort avec la fille, son bas-ventre se fait mal. Donc, le mari ne veut plus me voir. Un an plus tard encore, il est parti prendre 3e femme.
Depuis l'âge de 17 ans, Edwige Kwame a fait la rencontre de son homme avec qui elle passera 22 ans de sa vie de couple. La peur d'avoir des enfants de pères différents l'a maintenue dans un foyer où elle souffrait.
Par la suite, nous avons une autre 2e fille. Et c'est ainsi que les choses même se sont empirées.
La naissance d'un 3e enfant qui vient tout basculer. Non seulement elle se prenait en charge avec ses enfants, mais aussi elle supportait des violences physiques et psychologiques.
Il me portait même par moments quand les disputes sont pires. Il prenait plaisir à m'insulter aux yeux de tous. Il me disait même des trucs qu'on ne dit pas à une personne, à une femme, surtout à la mère de ses enfants. Vraiment, il me frustrait. Et quand c'est comme ça, quand je sors, les voisins, ça rit. Je n'arrive même pas même à soulever la tête.
C'est justement ce moment précis qu'intervient le centre SAS de Boaké afin d'accompagner ces femmes et les sortir de leur traumatisme. Situé au quartier Kamonoukro, après l'assaut des SI, ce centre a été créé le 15 mai 1995. En plus des méthodes de dénonciation traditionnelles qui pouvaient mettre la vie du dénonciateur et de la victime en danger, il y a une nouvelle méthode d'approche qui a été mise en place. C'est le code USSD. Diallo Seydou est le chef de projet Stop VBG Mobile dans ce centre.
Dièse 63, étoile 7 dièse. Il y a des systèmes qui vont venir où vous allez voir les 6 types de violences. Là, vous tapez sur le type de violence dont vous êtes victime, dont vous avez constaté, que vous voulez dénoncer.
Une méthode qui donne satisfaction à ses initiateurs.
Figurez-vous qu'en 2 mois, nous avons reçu 796 cas de dénonciation.
Ce code est en phase d'essai et il fonctionne pour l'heure dans les villes de Boaké et d'Abakala. Aïcha Diarra, Boaké, VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
L'une des traditions américaines les plus atypiques se déroule en amont de la fête de Thanksgiving, célébrée ce jeudi, lorsqu'une dinde est graciée par le président américain en exercice. Cette dinde épargnée ne devient donc pas le mets principal du dîner de Thanksgiving, contrairement à de nombreuses autres dindes. Jacopi Luzzi explique cette tradition présidentielle qui existe depuis des années. Le récit est de Dili Diko.
La pièce centrale du dîner de Thanksgiving est la dinde, une volaille indigène d'Amérique du Nord qui a été mangée par les premiers colons. La tradition d'une grâce présidentielle à une dinde de Thanksgiving remonte à des décennies. Le premier pardon de dinde enregistré a été celui du président Abraham Lincoln, dont le fils Tad lui avait demandé de ne pas manger la dinde offerte au président. Néanmoins, ce pardon initial n'est devenu une tradition que dans les temps modernes. Les présidents John F. Kennedy, Ronald Reagan et Richard Nixon n'ont accordé des pardons aux dindes que de temps en temps. C'est sous l'administration du président George Bush père en 89 que la cérémonie est devenue un événement annuel.
After all... Après tout, cette dinde représente les 45 millions de dindes qui apportent leur contribution irremplaçable à notre célébration de Thanksgiving. Alors, du calme, chère dinde, nous ne sommes là que pour te gracier.
La sélection de la volaille prend plusieurs mois et le processus est mené par la Fédération nationale de la dinde. Deux dindes sont finalement choisies, l'une pour la cérémonie dans le jardin de roses de la Maison Blanche et l'autre est gardée en réserve. Les noms des dindes sont choisis par des enfants à l'école primaire. La plupart des présidents profitent de la cérémonie pour faire de l'humour.
Time flies, even if turkeys don't.
Le temps s'envole, mais les dindes, non.
Le mardi avant Thanksgiving, les dindes sont conduites dans un hôtel du centre-ville de Washington, le W. Dans une suite de l'hôtel, elles sont nourries de maïs et de myrtilles et préparées pour une séance photo sur le toit. Ensuite, elles prennent la route pour la Maison Blanche.
Dinde, je te souhaite beaucoup de chance et je t'accorde un pardon complet et absolu.
Après la cérémonie, les dindes graciées passent le reste de leur vie à l'Institut Polytechnique de Virginie.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la suspension du président de la CAF pour 5 ans. La FIFA accuse le malgache Ahmed Ahmad, élu à la tête du football africain en 2017, de détournement de fonds. Il s'agit d'un nouveau scandale financier touchant le football africain alors que la CAF doit élire son prochain président en mars 2021. Quel impact cette suspension aura-t-elle sur l'élection du prochain président de la CAF? Où en est la réforme de la CAF? Comment réduire ou éliminer la corruption dans le football? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
C'est tout. tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.